on fait des ours sauvages, on sait que dans beaucoup de mascarades, on a des ours apprivoisés qui viennent accompagnés de leur montreur, qui est très fréquemment le gitan. Donc deux figures de l'autre, très très récurrent des carnavals et mascarades de l'espace euro-méditerranéen.
Et je rajouterais qu'au Brésil, à Recife, il y a la ours de Recife dans un pays où les ours n'existent pas, bien entendu.
Tout à fait, comme en Guyane, il y a le Gompi, etc., etc. Donc ce personnage du sauvage a été largement exporté dans la Caraïbe et les Amériques du Sud.
Est-ce que je pourrais juste demander à ce que tout le monde signe ce papier avant de quitter la pièce, s'il vous plaît?
Oui, est-ce que tu peux le faire passer peut-être? Pour tous les intervenants, c'est une autorisation d'enregistrer votre communication et de la mettre en ligne.
Mais le texte, on peut le publier ailleurs, parce que...
Oui.
D'accord.
Il
n'y
a pas de texte. La communication, c'est jamais tout à fait la même chose. Donc, une autre figure du sauvage, le nez marron.
Voilà, c'est toujours la même matière, hein, c'est toujours de l'huile et du charbon. En miroir dans le carnaval de Cayenne. Donc, à l'observation d'un film documentaire archivé à l'Institut national audiovisuel, s'est posée la question des masques de l'altérité en miroir au sein du carnaval de Cayenne. Donc, ce documentaire de la RTF, Radiodiffusion Télévision Française de 1969, archivé sous le titre Les carnavals du monde, met en scène un entretien entre le journaliste André Voisin et Philippe Lavastine, considéré à l'époque comme un spécialiste des religions et des traditions. Donc cet entretien, cadré essentiellement sur Philippe Lavastine, est entrecoupé de scènes de différents carnavals, commentées en voix off par André Voisin. Et ce qui nous a interloqué dans les images du carnaval de Cayenne est cette expression en voix off posée sur un groupe de personnages traditionnels, qui est, je cite, « des noirs peints en noir ». Et donc cette expression est entourée de commentaires que l'on pourrait qualifier de condescendants et fortement imprégnée de l'éternel mythe du loup sauvage. Et André Voisin assimile les Cayennais à des enfants, des humbles, tentant par le biais du carnaval de retourner à une innocence première, et il s'étonne de ces noirs peints en noir comme d'une curiosité absurde, d'un déguisement dépourvu de sens. Donc je vais vous montrer un tout petit extrait, mais ça ne dure pas très très longtemps, je vous assure, de ce petit reportage, si j'arrive à l'ouvrir. Donc c'est à 31h48. Alors, est-ce qu'il y a un peu plus de son? Il n'y a pas de son? Que j'ai fait ma petite analyse. Donc, le caractère absurde et sans sens n'est-il pas voulu par la population cayennaise? C'est une question que je me suis posée. N'y a-t-il pas inhérent à ces masques une volonté d'altérité tronquée, résultant d'un parcours historique particulier. Le carnaval de Cayenne est un phénomène issu du fait colonial et il s'agit de comprendre dans une perspective historique à la fois la construction de ces masques et la perception que nous en avons. Donc les personnages, alors je vais retourner à mon petit diapo, voilà. Donc les personnages que l'on voit dans ce documentaire de 1969 existent encore aujourd'hui au XXIe siècle et loin de vouloir retourner à une innocence première, sont une représentation d'une figure emblématique de l'histoire coloniale qu'est le noir marron. Donc le mot français marron vient de l'espagnol cimarron qui désignait le bétail échappé dans les colonies espagnoles. C'est l'animal domestique qui retourne à l'état sauvage, puis il a servi à qualifier les esclaves amérindiens qui fuyaient les Espagnols. Et à la fin des années 1530, il a commencé à s'appliquer exclusivement aux fugitifs afro-américains. Et le mot marron en créole guyanais signifie fuir. L'expression noir à marron désigne donc les esclaves qui ont fui les plantations et l'esclavage pour retrouver leur liberté. Le marronnage est donc inhérent au système esclavagiste, affirme l'historienne Marie Polderman, et existe dès les premiers temps de l'esclavage en Guyane française. Cependant, les noirs marrons n'ont jamais été très nombreux sous l'Ancien Régime. L'augmentation de la population noire marronne au début du XIXe siècle est due à l'apport de groupes d'esclaves révoltés venant du Suriname, qui est à la frontière ouest, et dont notamment les Boni, ou on appelle aussi les Aloukou, qui dans leur fuite remontèrent le Maroni et se fixèrent en Guyane. Donc là, le Maroni, il est. Et les Buchini.
Là, on a toute la population Boni et noir marron en Guyane française qui sont installées sur le fleuve du Maroni, qui est un fleuve qui donne la frontière entre la Guyane française et la Guyane hollandaise.
Alors, le guerrier Boni devint une image forte qui génère de la peur vers 1837. Donc, en effet, à cette date, les Boni voulurent s'implanter sur le fleuve Oyapock, qui est ici, voilà, qui est de l'autre côté de la Guyane, à la frontière est de la Guyane. Ils tentèrent de négocier avec les autorités françaises et nouèrent parallèlement des liens avec les esclaves. Et la colonie commença à prendre peur. Les Boni devenaient, en s'approchant des habitations et en réclamant un droit, celui de s'implanter où ils le désiraient, un danger imminent de contagion pour la population des esclaves. Leurs paroles de paix et de négociation furent même prises comme une déclaration de guerre par les colons. Je vous donnais quelques images un petit peu de ce qu'on pouvait voir comme Boni au XIXe siècle. Donc ça, ce sont des dessins du docteur Jules Crémaux lors d'un voyage. Leurs paroles, donc, des Boni venus pour parler furent même fusillés. Et les Boni étaient déterminés et quelques-uns vinrent s'installer quand même sur l'Oyapock. Et en 1841, les Français décidèrent d'attaquer ce groupe et d'une grosse révolte bien sanglante. Et le guerrier Boni n'est pas seulement une image de guerrier sanguinaire, dangereux, qui suscite la peur et le désordre. Cette mobilité des Boni, les relations qu'ils tissent secrètement avec les esclaves, nous poussent à dire qu'ils jouaient un rôle capital dans la résistance même des Noirs créoles au sein du système colonial. Et Roger Bastide s'exprime ainsi à propos de la Guyane française, dont je cite: d'un côté, les créoles sont soumis aux pressions et aux influences de la société environnante, qui tend à l'assimilation à la culture des Blancs. Mais de l'autre, tous les liens ne sont pas coupés avec les marrons, que l'on admire ou que l'on craint, comme les sorciers puissants, ce qui fait que la communauté créole peut, par opposition à la culture des maîtres, se refuser à l'assimilation et se réafricaniser à chaque instant. Donc il existe bien une ambivalence à l'origine dans la relation qu'entretiennent les créoles avec les noirs marrons, entre le mépris et l'admiration, entre la peur et l'admiration. Il existe aujourd'hui en Guyane française un nombre assez important de groupes de noirs marrons que l'on appelle plus sous le terme de Buchinangé, qui signifie en Guyane hollandaise « noir de la forêt ». Et les Buchinangé sont largement en but au mépris des créoles. Le terme Saramaka, qui est un des groupes des Buchinangé, équivaut à une insulte, par exemple, dans les écoles ou dans la société créole. Parallèlement, leur culture et leur présence sont mises en avant comme marqueurs d'identité guyanais, comme mémoire de l'esclavage et signe d'une insoumission guyanaise. Dans le carnaval de Cayenne, de même, espace culturel de la population créole, le personnage du nègre marron renvoie lui aussi à une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, et joue un rôle important dans la relation créole avec sa propre altérité. Alors là, c'est une autre carte postale d'une famille Bonny. Et là, nous avons le personnage du nègre marron au XXIe siècle. Donc les personnages carnavalesques, les nègres marrons, sont joués traditionnellement par des hommes. Un mélange d'huile et de suie permet d'obtenir la teinture noire qui recouvre entièrement le corps du personnage. Il porte un bandeau rouge autour du crâne et un calembé rouge en guise de slip, le calembé étant le paille bushinagi. Pour augmenter le contraste, là on l'a bien vu, surtout eux ils ne l'ont pas, mais on le voit très bien dans le film, il tient dans la bouche un wara, awara, qui est une grosse graine rouge et qui vient qu'un fruit du palmier awara. Traditionnellement, le nègre marron court en criant, on l'a bien vu qu'il avait une course particulière, et cherche à frôler les badauds, et cela de courir à leur tour pour éviter d'être sali. Il y a donc deux images, l'une positive et l'une négative, contenues dans la figure carnavalesque du nègre marron, et ces deux figures, ces deux aspects de la figure, correspondent à deux hypothèses de développement historique du carnaval de Cayenne, parce que quand on travaille sur l'histoire du Cayenne, on est confronté au vide archivique et on est obligé d'émettre en fait des hypothèses, donc que j'ai nommées H1 et H2, et je vais vous en parler. Alors là, c'est encore des nègres marrons. Là, on voit toute une famille de nègres marrons qui ne sont pas très contents d'être photographiés. Alors, H1, donc, le carnaval, donc sur un même postulat de base, on part d'un même postulat de base, qui est le fait historique de l'importation de la fête carnavalesque sur le sol guyanais par les colons français. On peut se mettre en place deux hypothèses, donc H1 et H2, qui produisent une logique historique et aboutissent aux deux aspects de la figure du nègre marron, qu'on peut appeler A1 et A2. Donc, le carnaval, H1, est un système coercitif, et donne A1, le nègre marron révèle le mépris de la population créole sur la population du chinanguais et sur la couleur noire. Alors, ça c'est pour les anglophones. Donc le carnaval est imposé à la population des esclaves et gens de couleur noire. C'est une imposition. Il participe en cela à l'acculturation de la population des esclaves et à l'imposition de la culture française comme seule culture valable. Il permet une forme de catharsis par le biais du défoulement carnavalesque issu du mythe de Dionysos et provoque ainsi le maintien de l'ordre en place. Le nègre marron participe à l'ordre en place, notamment en affirmant l'image du noir dans l'idéologie ségrégationniste puis raciste. Et le nègre marron semble être d'abord un personnage comique, une représentation caricaturale du noir. En effet, si on analyse le personnage, il est pleutre, lâche devant la tâche ardue du travail, de la nécessité du rendement, le nègre marron s'enfuit. Sa fuite sous-entend sa paresse innée. Il est noir et sa couleur n'est pas celle d'un homme, elle est brillante, visqueuse, exagérément noire, à la différence des canons de beauté créoles instaurés depuis longtemps, qui sont le chavin et la chaline, des presque blancs. Il est grossier, ses traits sont exagérés, des yeux exorbités, une bouche trop grosse et trop rouge, la caricature parfaitement raciste de l'Africain. Sauvage, il ne marche pas, il court, il ne parle pas, il crie, il n'est pas vêtu convenablement, à peine est-il habillé d'un cache-sec rouge. Il est en marge, être sali, couvert de liquide noir, ce n'est plus être touchable. Le nègre marron est en dehors de la communauté créole, en dehors du monde des humains. Rabaisser, c'est une des fonctions de la souillure carnavalesque définie par Michael Bakhtine, rabaisser soi et l'autre par la souillure, ramener l'être au bas corporel. Loin de la tête, de la vie spirituelle, le nègre marron est un être proche de la matière, de ses excréments, de ses ordures. Il est un bouc émissaire, il prend le rôle d'un objet rejeté, à fuir impérativement, qui, de ce fait, et par la mise en commun de ces mêmes sentiments de répulsion, renforce les liens sociaux, réaffirme l'existence de la communauté créole. Donc le nègre marron est un mouvement d'altérité en miroir simple. Le colon français voit le noir d'une certaine manière, il lui renvoie cette image, et l'esclave et gens de couleur libre reprennent cette image et l'utilisent comme masque carnavalesque pour affirmer leur adhésion à l'aliénation française. Le créole a assimilé l'idéologie raciste, il est la couleur noire, l'africain, le bushinengué. Il les considère comme des êtres vils et salissants, animaux sauvages en marge de la société. Le blanc voit dans ce personnage de simples noirs peints en noir, alors que le créole métissé se peint en noir, se recouvrant ainsi de sa propre altérité renvoyée par le blanc. Donc ça, c'est toute la stratification issue de H1. Si on passe à H2, donc le carnaval n'est plus un système coercitif, mais une pratique subversive, et donne le deuxième aspect de la figure du Negmaron. Le Negmaron est une louange à la liberté, à la révolte, c'est le retour du sentir humain. Donc, hop, le carnaval est réapproprié dans ces conditions par la population des esclaves et gens de couleur noire. Il participe à la résistance culturelle et permet, sous le masque, de la survivance de croyances rituelles et musiques issues de l'Afrique de l'Ouest. Et transformée par le syncrétisme culturel, la population des esclaves étant issue d'origines africaines très diverses. Il permet la mise en place d'une culture nouvelle, la culture créole calinaise, société du masque, qui s'épanouira au moment de l'abolition de l'esclavage. Et en effet, si on analyse la figure du Negmaron, le Negmaron est un corps dans la course. Il fuit son état d'esclave, mais aussi les représailles qui l'attendent pour avoir osé se révolter, pour avoir osé dire qu'il était un homme et qu'il méritait sa dignité d'homme. La course du Negmaron fait signe de gaspillage et d'excès, et le Negmaron échappe à l'utilité et au rendement du travail, échappe à la condition d'esclave, à l'état de servitude. Il s'approprie son corps à soi pour soi et le place dans un autre système de référence, dans une autre sphère du symbolique qu'est le carnaval, qui dit autre chose que le labeur. Le sentir humain est instauré par le masque, révélateur de la puissance du guerrier boni. Le masque du Negmaron est un masque terrifiant et terrifiant. Le Negmaron crie pour créer l'effroi chez le spectateur. En hurlant dans la cité, le masque a en lui un pouvoir d'exorciste. Il chasse les démons du porteur et ceux des spectateurs. Ce pouvoir exorciste, sorte de purgation des passions, catharsis carnavalesque, est renforcé par le phénomène de la souillure. Se couvrir d'ordures renvoie, selon Harold von Genep, dans le folklore français du berceau à la tombe, en tome 1, à la croyance française du pouvoir magico-fertile de l'excrément et de sa puissance apotropaïque, qui éloigne les maux et défend du mauvais œil. Salir soi et l'autre, c'est non seulement tâcher d'éloigner les maladies diverses et le mauvais œil, mais c'est aussi, selon Michael et Bakhtine, ramener la souffrance et la peur qui font signe dans l'excrément à la part comique du monde. Donc le Negmaron, est une forme de miroir historique. Il est une trace du passé colonial où le créole exprime son désir de révolte et la volonté de réaccéder à une humanité bafouée par l'histoire et par la société moderne. Mais ces deux aspects, aspect négatif, aspect positif, qui correspondent à H1 et H2, peuvent être cumulés en donnant H3, qui est l'accumulation de la pratique du détour mêlée à l'esthétique grotesque. Donc la pratique du détour est un concept d'Edouard Glissant, et je vais parler aussi de l'esthétique grotesque selon Michael Latine. Donc H3 semble être le syncrétisme entre la pratique du détour créole, définie par Edouard Glissant, et l'esthétique grotesque définie par Michael Bakhtine. Donc celle-ci contenue dans le carnaval est, selon Bakhtine, la mise en place au sein d'une même figure des aspects négatifs et positifs de l'être, le mélange des différents états de l'être, on voit souvent un homme en femme, un vieux en jeune, un beau en laid, etc. Ce tout mêlé dans une même figure produit un effet d'ambivalence et conduit à un affranchissement des points de vue prédominants sur le monde. Le sens n'est plus donné et à recevoir, il est à construire, rien n'est sûr et certain. Et le Negmaron est bien cela une figure grotesque, car en lui, deux discours s'établissent, s'opposant l'un à l'autre, le négatif, le positif. L'ambivalence de la relation, hop, voilà, 5 minutes. Donc, cette esthétique grotesque se mêle à la pratique du détour inhérente, selon Edouard Glissant, à la créolité. Donc le détour est la mise au paroxysme du caractère dérisoire de la genèse de l'être créole. C'est-à-dire que le créole accentue l'aspect négatif de l'image du noir renvoyée par le blanc. Cette accentuation permet une mise à distance avec cette altérité imposée et constitue en quelque sorte une forme de poétique forcée. Ainsi, le blanc renvoie une image aux esclaves, l'image raciste du noir. Cette image est accentuée et renvoyée au blanc qui y voit de simples noirs pince noir et est rassuré à la fois de l'utilité coercitive du carnaval et de la supériorité des blancs. Mais cette image est aussi placée dans l'esthétique grotesque et utilisée comme masque. Derrière ce masque se crée alors une autre culture qui résiste à la culturation, qui s'affranchit des points de vue prédominants, qui marronne en quelque sorte. Donc, il faut que j'abrège. Alors, je vais juste vous montrer quelques autres figures du carnaval de Cayenne qui ont ce même système A1, A2, équivalent à H1, A2 et H3. Donc, nous avons l'anglais banane, qui est en fait une imitation de l'antillais anglophone, qui sont en général les Saint-Luciens, qui avaient beaucoup immigré au XIXe siècle en Guyane française. Et donc, on imite le Saint-Lucien qui imite le noir et le blanc. Et pour cela, on se masque de noir. Et nous avons aussi un autre personnage et qui ressemble fortement au blackface américain. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu. C'est toujours dans cette idée d'imiter l'imitateur qui imite, etc. Donc, une mise en abîme de l'altérité. On a aussi, ce n'est pas un personnage traditionnel, mais très récurrent en Guyane française, qui est le tirailleur sénégalais. Et là, on va avoir beaucoup de ressemblances avec une autre, un caractère dérisoire de la genèse de l'altérité, c'est évidemment tout ce qui est en rapport à la publicité de Banania. Et on a aussi un personnage très prisé par la jeunesse cayennaise, qui est le gorille. Et là aussi, on s'habille du sauvage pour aller voir les filles, et on est beaucoup de références au film, ça va pas plus bas, au film de la RKO, King Kong évidemment, donc toute l'idée de l'érotisme du noir et de l'érotisme. Donc en conclusion, parce que j'ai plus beaucoup de temps, donc l'altérité en miroir n'est pas seulement le fait de renvoyer à l'autre une image de lui-même dans ce qu'il fait pour nous et qu'il est autre, et que cet autre nous renvoie cette même image de façon grossière et dérisoire, donc le noir peint en noir. L'altérité en miroir, c'est aussi un miroir que l'on se pose à soi-même, et les figures de l'humanité correspondent, selon Francis Afergan, à un vide ontologique. Il s'agit premièrement, pour les Cayennais eux-mêmes, d'exprimer l'inexprimable, de manifester le retour de ce qui a été refoulé. Donc la société créole s'est construite sur le sacrifice de son humanité. L'esclavage, fait marquant de l'histoire du monde créole, comme une honte, un non-dit, a été longtemps occulté par la population créole affranchie, post-abolition. Et le nègre marron rappelle par le biais du carnaval ce traumatisme historique qu'on ne veut pas rappeler. En même temps qu'il commémore ce principe de répression à la base de l'histoire créole, le carnavalier libérateur permet au principe de plaisir de rejaillir et de reconstruire cette humanité perdue. Voilà, je vais essayer d'abréger. Donc l'altérité en miroir correspond aussi, deuxièmement, à une part de nous-mêmes, miroir de la société française métropolitaine. Et quand on fait des recherches, on est toujours face à un miroir, et ces noirs peints en noir sont le miroir de notre propre altérité. Ce que nous voyons de l'autre correspond souvent à nos propres vides ontologiques ou encore à nos surplus préoccupants. Et dans ce reportage de 1969, on voit bien tout le retour post-68 du mythe du bon sauvage et d'un désir de retourner à une innocence première. Voilà, je vais conclure.
Merci beaucoup, Bebel, de nous avoir fait voyager dans un pays que je connais bien et que j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup participé moi-même au carnaval de Cayenne, puisque j'ai été en poste à Cayenne pendant 5 ans. Et c'est vrai que les carnavals de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud sont des très très bons observatoires pour comprendre ce qui se passe chez nous, parce que les carnavals européens ayant été exportés, avec leurs personnages archétypiques et leurs scénarios, ils se sont modifiés, créolisés, africanisés, et c'est quelquefois justement en regardant la façon dont les choses ont évolué dans la Caraïbe ou l'Amérique du Sud que l'on comprend mieux ce qui se passe dans nos propres carnavals. Et cette figure du noir-marron, qui est donc la figure de l'esclave échappé, qui
qui, pour les Blancs, bien sûr, était l'ennemi par excellence, est devenu, pour les créoles qui ont complètement intégré la hiérarchie raciale qu'on leur imposait, une figure de l'autre. Mais c'est aussi en train de changer. C'est, de plus en plus, on voit des figures du noir marron qui sont au contraire très valorisées, qui sont quelquefois même jouées par des Blancs, puisque le noir marron devient un peu l'emblème d'une Guyane libre.
Mais par contre, quand j'ai joué noir marron, là j'étais une blanche qui imite le créole, qui imite le noir marron, et c'était pas forcément vu d'une façon positive, parce que les spectateurs me disaient que c'était pas possible que je marronne. Je ne pouvais pas marronner, ça ne pouvait pas m'appartenir, cette action de marronnage.
C'est vrai que c'est un personnage qui affectionne les Blancs qui vivent en Guyane. Je pense au groupe de carnaval de l'IRD, par exemple.
Oui, Osband.
Très souvent, on aime se déguiser en noir marron parce que c'est un personnage très positif de la Guyane. En tout cas, il y a eu beaucoup de travaux sur l'Amérique du Sud et la Caraïbe concernant ces mises en miroir d'identité. Bon, bien sûr, je citerai l'ouvrage de Michel Agier sur le carnaval de Salvador de Bahia, où il montre comment un groupe carnavalesque met en scène une identité africaine revendiquée, complètement réinventée. Il y a eu aussi énormément de travaux sur les Antilles françaises. Je pense en particulier, alors j'ai mis dans le dossier qui vous a été distribué un article très difficile à trouver de Madame Tampon. Voilà, c'est un ouvrage qui est assez difficile à trouver, qui s'appelle c'est un ouvrage qui a été édité par le Conseil général de Martinique, qui est quasiment introuvable. Et Madame Tampon, qui vit maintenant à la Nouvelle-Orléans, était, pour des raisons budgétaires, impossible d'inviter. Et elle a beaucoup travaillé sur ses mises en scène identitaires en miroir, en particulier à partir du personnage de la coupeuse de Cannes, donc qui était l'esclave la plus en bas de l'échelle. Et donc ça a d'abord été les Blancs qui se déguisaient en coupeuse de Cannes au moment du carnaval. Ensuite, ça a été la bourgeoisie créole qui s'est déguisée en coupeuse de Cannes, etc. Enfin, vous regardez toute l'évolution de la valeur de ce personnage où maintenant on se déguise en coupeur de Cannes pour revendiquer une identité créole et protester contre l'esclavage. Il y a comme ça, à partir d'un même personnage, une utilisation selon les moments extrêmement différente. Des travaux très semblables pour Trinidad et Tobago, parfois Ravel Zoliman, sur le nègre jardin, par exemple, donc le nègre de plantation, où on se déguise en. C'est d'abord les Blancs qui se déguisent en nègre jardin, puis ensuite les créoles se déguisent en nègre jardin pour se moquer des Blancs qui se déguisent en nègre, etc., etc. Donc toutes ces mises en miroir bon, je vous laisse la parole, on a 5 minutes pour discuter avant d'aller déjeuner. Étant donné que une grande partie des intervenants ou des auditeurs n'ont pas pu nous rejoindre pour des problèmes de transport, je vous invite tous à vous joindre à nous pour le repas qui aura lieu à côté.
Oui, le nègre marron, il y en a beaucoup à Trinidad et Tobago, qui sont venus à notre ville, et ils étaient très présents au début du carnaval. Alors, il y a un autre aspect en Guyane qu'on avait déjà évoqué en Bretagne, c'est le thème de la sous-souris. En Guyane, il y a un costume de sous-souris, diminutif de chauve-souris. Et à Nice, nous avons la ratapillade. Et la ratapillade, c'est les Niçois se sont emparés de ce thème pour en faire leur identité, parce que quand Nice était le dernier département français, nous sommes les plus récents français de territoire, en 1860, eh bien, les Français se sont moqués, ont marqué une sorte de mépris vis-à-vis de ces Niçois qui ne parlaient pas français, qui parlaient italien du jour au lendemain, qui passaient pour des demeurés. Et donc il y a eu un char, le char de la ratapillade, où on s'est emparé de « oui, nous sommes noirs, oui, nous sommes sous-développés, etc. Mais nous sommes des ratapillades, nous sommes des sous-souris et nous sommes fiers ». Je veux dire que ce thème du détour et de la réappropriation d'une manière positive de quelque chose qui est contraire et négatif ou sous-développé est un thème intéressant dans le carnaval.
Oui, une petite question pratique qui m'a fort interpellé en tant que photographe, bien sûr. Tu as montré un groupe et tu as dit qu'il n'était pas très content pour les photographies.
Oui, alors c'est pas qu'ils n'aimaient pas qu'on les photographie, c'est parce que le nègre marron est toujours en défi. Et il y a beaucoup de personnages comme ça, comme l'anglais banal, il met sa veste par terre, il défie quiconque de prendre la veste. Et il y a beaucoup, on est beaucoup dans le défi, dans le jeu carnavalesque en familial. Et là, c'est pareil, il y a toujours cette relation un peu au défi avec l'autre. Toi, je vais te souiller, toi, fais attention. On s'approche comme ça, un peu bagarreur. Le problème, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, il y a le carnaval qui est devenu un spectacle, une parade, et il y a l'idéologie de protéger le consommateur, de la consommation. Donc le spectateur est devenu un consommateur. Il y a même des cordes à certains endroits. Et quand on a envie d'aller toucher le spectateur, il dit pas toucher le spectateur, c'est interdit. Donc il n'y a plus le jeu, mais on reste encore dans cette idée de défi.
À propos de l'œuvre Baron et de l'Odigui, nous en étions avec Barry Pascal, tu te souviens que maintenant, les nègres marrons se s'enduisent de chocolat. Il y a de plus en plus, je pense qu'il y a un rapport, mais de plus en plus maintenant, les groupes du samedi, c'est la journée, on défile en bulle de chocolat.
Oui, c'est assez revendicatif. Nous sommes la nation chocolat et on en est fiers. Oui. Mais il me semble quand même que le nègre marron, il faudrait l'interpréter en fonction de son rôle européen. C'est vraiment l'héritier de l'homme de feuille, de l'Inca, de tous ces sauvages qui, dans les carnavals européens, faisaient le service d'ordre. Il n'y avait pas encore de rambarde et de cordes, mais tous ces groupes qui couraient le long des spectateurs, souvent très sales, c'était une façon nue. Donc les gens qu'on ne voulait pas toucher, c'était aussi une façon de faire le service d'ordre. Et c'était quand même la fonction de l'Inca, par exemple, dans les carnavals du XVIe ou du XVIIe siècle, ou bien de l'homme de feuille dans les carnavals européens. Les nègres moissiraux, par exemple, aux Antilles, sert encore au service d'ordre.
Là, actuellement, ils servent encore aussi au service d'ordre. Donc, c'est le masque lait qui laisse passer le masque beau. Mais dans ce que j'ai récolté comme information du français, traditionnellement, ce n'était pas son rôle premier, parce que le masque beau est apparu bien plus tard, avant et postérieur à ce personnage traditionnel. Donc, au début, ce n'était pas cette police. Il n'y avait pas cette rôle de police. Ça, c'est venu un peu plus tard historiquement, je pense.
Can we have this feed ontologic? This would be ontological void, I take it, and the surplus preoccupant. Can we have a l'altérité en miroir est une expression du vide ontologique et du surplus preoccupant. I was totally lost there. Can we have some sharper, some more specific definition of what she means by vide ontologique and surplus preoccupant? Because it sounds very interesting, but I wouldn't be able to explain to a third party.
Je parle pas anglais, donc je vais essayer d'expliquer tout très simplement. Donc, les figures de l'humain, ça équivaut à tout ce que l'on met comme masque, statue, c'est tout ce qu'on va construire comme figure de l'humain, correspondent à un vide ontologique, c'est-à-dire que correspondent à des lacunes que l'on peut avoir en nous, des vides que l'on a en nous, comme par exemple une histoire qui a été volée, et souvent les peuples qui ont connu la colonisation ont dit qu'ils ont une histoire qui a été volée, donc ça correspond à ce vide, et ça peut correspondre à des surplus préoccupants, ça veut dire comme une énergie en surplus qu'on a en nous, comme une pulsion qu'on n'arrive pas à exprimer dans le quotidien, et tout ce qui va être de l'ordre du pulsionnel, voilà. Eros et Thanatos, par exemple.
Alors, est-ce qu'à la place du gros vide, c'est pas une occultation, occulté?
Ça peut être, selon Francis Afarian, c'est plus large que l'histoire qui a été volée. C'est un vide ontologique, c'est tout ce qu'on peut avoir de lacunaire en nous. Yes.
Le mot, c'est le mot vide qui est gênant. C'est pas vide, c'est quelque part, c'est dans un inconscient, c'est quelque part.
va peut-être conclure. Je voudrais juste te dire une chose avant qu'on aille déjeuner. C'est qu'actuellement, dans le carnaval de Cayenne, là, on vient de parler du personnage du noir marron, mais les véritables noirs marrons, en particulier les Saramacas, commencent à participer au carnaval de Cayenne. Et ils y participent en revêtant des vêtements traditionnels, en jouant de la musique traditionnelle. Ils sont souvent accompagnés d'un groupe de danse, de musique africaine très, très connu dans Cayenne. Et cette mise en scène, d'une façon, je ne dirais pas folklorique en l'occurrence, mais traditionnelle en termes de musique, de vêtements, etc., est très fréquente dans beaucoup de carnavals où un groupe se met en scène lui-même par rapport à une identité